Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on a ensemble. Merci pour la louange. Merci pour les prières. Merci pour le travail que tu fais en nous. Merci de vouloir nous stimuler à ce qu'on aspire à être rempli de ton Saint-Esprit, de ton Saint-Esprit. Je te demande de bénir chaque personne qui sont ici, de délivrer les captifs, de guérir les malades, puis de donner à tous de recevoir le pardon des péchés, d'être rempli de ton Saint-Esprit. Parce que tout se passe dans le Saint-Esprit. Puis merci de ta parole qu'on va voir aujourd'hui, puis l'œuvre que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On est en train de continuer une série d'études sur la moisson des âmes. Dieu veut nous réveiller, il veut nous sensibiliser à ce qu'on pense qu'il y a du monde qui sont perdus autour de nous, des gens qui ont besoin du Seigneur, premièrement pour être pardonné de leurs péchés, mais aussi pour recevoir le Saint-Esprit, recevoir les guérisons, recevoir les délivrances. Puis c'est le Seigneur qui va faire les œuvres. Parce que quand le Seigneur se manifeste, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu sauve, puis baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que lorsqu'on évangélise, on n'est pas seul dans l'évangélisation. Parce qu'il y en a qui n'osent pas aller évangéliser. Puis ils disent, je suis seul, j'ai peur. Puis là, ils veulent y aller deux personnes, puis là, ils se tiennent par la main parce qu'ils manquent de courage. Puis ils ont peur. Puis ils se pensent tout seuls. Mais on n'est pas tout seul quand on évangélise. Dieu, il veut faire de nous des témoins. Puis c'est l'œuvre de Dieu de venir faire l'œuvre en nous. Dieu veut faire de nous des témoins. Le Seigneur veut nous amener à croire qu'il se manifestera pendant qu'on annonce l'Évangile. Croyez-vous que Dieu peut se manifester lorsqu'on croit à l'Évangile? Amen. Quand on croit à l'Évangile puis qu'on accepte Jésus-Christ, Dieu veut se manifester à travers de ta vie. Dieu veut agir. Puis quand tu vas aller l'annoncer, l'Évangile, il va agir. Autant qu'il a pu te mettre des signes dans ta vie comme quoi que Dieu était là pour que tu puisses être sauvé. Il a agi, il a montré des choses, il t'a parlé, il t'a fait comprendre des affaires, il t'a vu peut-être des guérisons, des délivrances, t'as vu la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Dieu s'est manifesté. Là, tu crois encore aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard. Mais il faut croire que Dieu veut encore agir pour pouvoir délivrer, guérir, manifester sa puissance. Est-ce que vous croyez que Dieu peut et veut vous accompagner lorsque vous allez évangéliser? Est-ce que vous y croyez vraiment? Quand on sort de la maison pour aller dehors dans la rue avec des pamphlets, puis on part avec un petit courage, mais on a-tu une conviction que Dieu est là puis que Dieu nous accompagne? Jésus lui-même, il n'était pas tout seul dans l'évangélisation. Même si par bout, il était seul physiquement, que les disciples étaient partis, puis il se retrouvait tout seul, Jésus n'a jamais été seul. Il était accompagné de Dieu son Père, il était accompagné du Saint-Esprit. Ça nous dit dans Luc 4, 14, 15, c'est Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, puis sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour, puis il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Jésus n'était pas seul lors d'évangélisation. Il était accompagné par le Saint-Esprit. Il avait de l'air seul dans le désert. Il était là pour être tenté par le diable. Mais quand il est sorti du désert, il était rempli du Saint-Esprit. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Il faut croire que Dieu est là, puis Dieu nous accompagne. Puis il va se passer des choses extraordinaires. Le témoignage de Jésus est accompagné par Dieu et sa puissance. Dieu a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus sur la terre accompagné de sa puissance. Il n'a pas envoyé juste l'âme de Jésus. Il a envoyé aussi la puissance pour l'accompagner, qui était dans le Saint-Esprit. Ça nous dit dans Actes 10, 38, « Vous savez comment Dieu y a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus n'était pas seul, Dieu était avec lui. Pourquoi, quand il mentionne ça, vous pensez, Dieu était avec lui? C'est évident que Dieu était avec Jésus. Jésus était Dieu. Mais le monde ne le comprenait pas, puis il avait besoin d'avoir un signe extérieur pour démontrer que Dieu l'accompagnait. Puis il fallait qu'il se passe des œuvres qui ne s'étaient jamais faites nulle part pour démontrer que Dieu était avec lui. Les Juifs croyaient en Moïse. Pourquoi que vous pensez qu'ils croyaient en Moïse? Parce qu'il avait vu des miracles, il les a pas vus personnellement, mais il avait entendu parler dans les écrits, les miracles que Dieu a fait à travers de Moïse. Dieu accompagnait Moïse. C'est pour ça que les miracles ont eu lieu, puis les 10 plaies d'Égypte. Les Juifs, eux autres, croyaient aux écrits de Moïse à cause des signes qui s'étaient produits. Jésus est venu accompagné de Dieu le Père. Dieu était avec lui. Ça nous dit... Dans Actes 10, 38, je vous le relis. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus. C'est Dieu qui accompagnait Jésus, puis Jésus t'a revêtu de la puissance de Dieu, puis il s'en allait partout ce qui s'en allait, il faisait du bien, puis il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Faut comprendre, frères et sœurs, que quand Dieu le Père a envoyé son fils Jésus pour aller évangéliser, il ne l'a pas envoyé tout seul. Il a envoyé le Saint-Esprit avec, puis le Saint-Esprit, Jésus, t'a revêtu de la puissance du Saint-Esprit, puis il est allé faire l'œuvre du Père par la puissance du Saint-Esprit qui l'accompagnait. Dieu lui a rendu témoignage de Jésus par les signes qu'il a opérés. Tous les miracles que Jésus a vécu sur la terre, qu'il a fait, c'est pas lui qui les faisait, c'est son Père qui agissait en lui. C'est le Saint-Esprit qui était avec Jésus, qui manifestait les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, les délivrances, des personnes mortes qui ont ressuscité. C'était pas n'importe quoi. C'est la puissance de Dieu le Père dans le Saint-Esprit qui était en Jésus, qui faisait les signes, les prodiges, les miracles. Jésus n'était pas seul dans l'évangélisation. Le Saint-Esprit était avec lui. On voit ça dans Actes 2, 22. Ça nous dit, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Dieu a rendu témoignage de Jésus. Les gens avaient besoin d'entendre, de voir Dieu agir pour croire en Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Mais il s'est manifesté à travers Jésus. Le Saint-Esprit qui était sur Jésus a agi, là, il parlait, puis il dit, « Dis ça, fais ça. » Puis il montrait des choses à faire, puis il dit, « Le Père me montrera encore des œuvres encore plus grandes. Comme le Père a le pouvoir de ressusciter des personnes, ainsi va donner au Fils de ressusciter des personnes. » Puis Jésus l'a ressuscité par la suite. Tout le chemin que Jésus faisait, il était accompagné par le Père, puis le Père lui donnait les instructions pour... Va à gauche, va à droite, dis ça, dis pas ça, fais ça. Tout était guidé par le Saint-Esprit. Jésus n'était pas tout seul dans son évangélisation. Dieu le Père l'accompagnait, puis ça dit, Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. C'est pas nous qui font les miracles, les prodiges et les signes. C'est Dieu qui les fait. Puis cela, ça l'accompagne ce qu'on est en train de faire parce qu'on est guidé par Dieu pour le faire. Est-ce qu'on croit que Dieu peut nous accompagner de cette façon-là? C'est à cela que Dieu veut nous amener, à ce qu'on y croit, puis qu'on ait, à chaque occasion qu'on a, on prie pour les besoins, on s'attend à ce que Dieu se manifeste. Le ministère de Jésus, il est plus que de sauver les gens de leurs péchés. C'est vrai qu'il est venu pour pardonner nos péchés. Puis on le répète à toutes les réunions, puis c'est important qu'on en parle à toutes les réunions. Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Mais il n'est pas venu juste pour cela. Il y avait d'autres choses aussi qu'il est venu faire en même temps. Il avait été prophétisé que le Messie prêcherait et guérirait les gens, qui guérirait tous ceux qui sont l'emprise du diable, parce que Dieu est avec lui. On voit ça dans Luc 4, 16. De 16 à 19. Ça nous dit que Jésus s'est rendu à Nazareth, où ce qui avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, parce que c'était des rouleaux, il trouva l'endroit où il était écrit. Regardez bien ce passage-là. Le prophète Isaïe, c'est un livre de l'Ancien Testament qui a été écrit peut-être 500 ans avant Jésus-Christ. Puis dans ce passage-là, Jésus a été chercher le passage où ce qui annonçait la venue du Messie. Dans le verset qu'on va lire, dans le verset 18, ça dit, c'est Jésus qui le lisait devant toute la foule, devant tous ceux qui étaient dans la synagogue. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez-vous, Jésus n'est pas venu juste pour pardonner les péchés. Pardonner les péchés, c'était une partie de son ministère. L'autre partie, s'il est venu pour guérir, délivrer, changer la vie des gens. Dans ce passage-là, dans le verset 18, ça dit, puis là Jésus, tout de suite après, quand il a lu ça, ça nous dit, il a fermé le rouleau, puis là, il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Parce que ça parlait du Messie qui avait reçu l'onction du Seigneur. L'Esprit du Seigneur était sur Jésus. Puis, ça dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Puis là, il parle d'un paquet d'œuvres qu'il était pour faire. Pas juste pour le pardon des péchés. Pour annoncer la bonne nouvelle, oui. La bonne nouvelle qu'on peut être sauvé, il l'annonce à même aux pauvres. Mais il m'a envoyé aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus a été envoyé pour guérir. Des cœurs brisés, c'est notre âme, ceux qui souffrent dans l'âme. Des tristesses, des angoisses, des tourments, des blessures, des accusations que les gens ont quand ils se replient sur eux-mêmes, qu'ils sont abattus. Mais tout ça, là, les sentiments négatifs qu'on peut vivre dans notre âme, Jésus est venu pour guérir cela. Il est venu aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça, c'est ceux qui sont liés, qui ont des liens du diable dans leur vie. Le diable les tient captifs, ils ont besoin d'une délivrance. Jésus est venu aussi pour ces captifs-là. Il veut proclamer aux captifs de la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il disait, tu es libre. Il dit pas, Seigneur, donne-nous la liberté. Jésus, il avait le pouvoir de dire, tu es libre. Maintenant, lève-toi, puis marche. La guérison tomba dessus automatiquement parce que Dieu accompagnait ce qu'il disait, puis la guérison était proclamée par Jésus. Puis la personne s'y était liée par des mauvais esprits, mais il était libéré à la proclamation de Jésus. Puis il parla aux démons, « Sors !» Il sortait. Puis là, il délivrait les femmes, « Tu es délivré de ton infirmité. » Bon, mais toutes les phrases que Jésus prononçait, il proclamait la guérison puis la délivrance dans la vie des gens. Et aussi à ceux qui étaient aveugles, qui avaient des maladies physiques, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il y avait des personnes aveugles, puis là, il priait, puis il était guéri. Puis c'était la mission de Jésus de manifester la puissance de Dieu pour délivrer les gens. pour envoyer libres les opprimés, ceux qui sont attaqués, qui ont des combats, qui ont des difficultés. Jésus est venu pour toutes les formes de problèmes qu'on peut avoir. Fait que, en plus d'être pardonné des péchés, on peut avoir l'assurance que Jésus veut s'occuper personnellement de tout ce qui a été changé dans notre vie. Oui, il peut vous, Dieu peut vous changer tout ce que vous avez besoin d'être changé. Êtes-vous rendu comme Jésus?
Non.
C'est le but à atteindre. Fait que tout ce qui manque dans votre vie pour ressembler à Jésus, ou tout ce qu'il y a de trop dans votre vie qu'il faudrait que ça soit enlevé pour ressembler à Jésus, Jésus a le pouvoir de le faire. Il le faisait sur la terre en guérissant les cœurs et les corps, puis il peut le faire encore aujourd'hui pour vous délivrer même de péchés. Parce qu'il pardonne les péchés, mais aussi il en délivre, pour que tu arrives à être une personne sainte, puis qui porte du fruit pour Dieu. Il y avait une grande bénédiction que les premiers disciples avaient. C'était de voir le Seigneur de leurs propres yeux. Ça, c'était vraiment une bénédiction, voir Jésus en chair et en os, lui serrer la main, lui faire peut-être une accolade. C'était extraordinaire. Puis, aussi, c'était une autre bénédiction qu'il y avait, c'était d'être envoyé par le Seigneur. Là, c'est le Seigneur qui disait aux apôtres, « Allez! » Là, les gens œuvraient sous l'onction du ministère de Jésus. Ben, Jésus a prié pour ses apôtres, il s'en est choisi 12. Après, il s'en est choisi 70, puis il les a envoyés avec une puissance qui était sur eux. Puis le ministère de Jésus s'est multiplié à travers les 12 et les 70, puis l'évangélisation se faisait. Puis ça se faisait, comme j'ai mentionné dans une semaine antérieure, il a envoyé ses disciples aux endroits où ce que lui-même devait aller. Fait que là, il nous a dit à nous, va, puis là, je suis avec toi, puis je t'accompagne, puis là, je vais y aller moi-même, je vais être là pendant que tu es là. Là, les disciples sont partis, on voit ça dans Matthieu 10, 7 à 9, 7 à 8. Il dit, allez, prêchez! Et dites, les envoyés, là, puis il leur a dit quoi dire? Le royaume de Dieu est proche. Puis là, il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Fait qu'il les a pas juste envoyés pour parler. Oui, c'est correct, faut parler. Comment est-ce que les gens vont croire s'il y a personne qui prêche? Faut qu'il y ait du monde qui prêche, qui parle. Mais il y a plus que ça, il les a envoyés prier. Il a envoyé les 12, il a envoyé les 70 disciples prier comme si ça serait lui qui prie. Jésus les a endossés, puis toutes les prières que les disciples ont faites, il est endossé par Jésus, puis là, il priait pour les malades, il chassait les démons, puis il ressuscitait des personnes mortes. Tu le vois, ça, dans... l'apôtre Paul, il a vu ça. L'apôtre Pierre aussi, une résurrection. Je te dis pas qu'ils en ont eu que tout le monde qui mourait dans ce pays-là, qui était tout ressuscité. Mais Dieu a un plan. C'est Dieu qui fait l'œuvre en nous. C'est Dieu qui nous guide vers des personnes pour faire un acte surnaturel. On partira pas à... Je ne crois pas que Dieu va nous dire, peut-être qu'il peut le faire, là, mais il ne me l'a pas dit, d'aller au salon mortuaire, puis chaque personne qui rentre là prie pour les ressusciter, puis là, aller dans les hôpitaux pour ressusciter tous ceux qui meurent. Je pense pas que ça arrive à ce niveau-là, mais s'il nous le demande, on va y aller. Mais il faut croire que quand on arrive, il nous dit, allez et dites, tu t'en vas là pour prêcher la parole de Dieu, dis. Le royaume de Dieu s'est approché, que Dieu bénisse cette maison, la paix sur cette maison. Y a-t-il des malades? Oui, on va prier pour les malades. Y a-t-il des personnes qui sont liées par des mauvais esprits? On va prier pour les mauvais esprits, puis chasser ça. Ils sont envoyés pour prêcher et prier. La prière fait partie de l'évangélisation. Faut que tu pries pour les gens qui viennent te voir. Mon frère, il va dans Montréal, c'est le coin de rue, puis il passe des pamphlets depuis une couple d'années. Puis à chaque fois qu'il y a du monde qui vient, puis qu'il commence à entretenir la conversation, presque à chaque fois, ça finit avec la prière pour la personne. Puis ça, il faut le croire que c'est pas devant nous que la personne, c'est pas nous qui va guérir les personnes, c'est pas nous qui a le pouvoir de cela, mais Dieu place cette personne-là devant toi pour que tu y parles de Jésus, puis que tu pries le Seigneur pour elle. Il nous dit « fallait ». Le reste, ça dépend du Seigneur, ça dépend pas de nous. Mais faut le faire. De vouloir prier pour les besoins, pour les personnes qui n'ont besoin, ça fait partie du plan de Dieu. C'est pas nous qui guérit, on n'est pas des guérisseurs. Mais le Saint-Esprit qui nous accompagne puis qui nous a envoyé, lui va le faire. Amen. On y croit-tu que Dieu est là? On va le voir dans d'autres versets. Quel était le résultat de l'évangélisation sous l'onction de Jésus, les premiers disciples? Qu'est-ce qu'ils ont vu comme résultat dans Matthieu 11, 2 à 6? C'est Jésus qui est en train de parler. Jean le Baptiste, lui, il a pogné un down dans sa vie. Il s'était fait mettre en prison à cause de Hérode, puis sa femme qu'il avait. Puis Jean-Baptiste s'est pas gêné pour lui dire, t'as pas le droit de te marier avec cette femme-là, c'est la femme de ton frère. Puis à cause de ça, l'autre qui en voulait, elle l'a fait mettre en prison. Puis on le sait qu'il a été décapité en prison. Mais pendant qu'il était en prison, il avait pogné un down. Il croyait que Jésus était le Messie, mais il y a eu un doute. Puis là, il a envoyé dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou on doit en attendre un autre? » Là, Jésus a répondu à Jean-Baptiste. Là, ça nous dit ça dans Matthieu 11, le verset 2 à 6. « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jean est en prison, vient d'entendre, il va avoir une confirmation. Comment est-ce qu'il a fait pour voir la confirmation que Jésus était vraiment celui qui devait venir? Mais quand Jésus était dans le temple, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Il lisait un passage de l'Ancien. Là. Puis là, ça annonçait que Jésus ferait des miracles dans le cœur, dans le corps, proclamer la délivrance, puis annonçait la bonne nouvelle. Là, Jésus dit, « Allez rapporter ce que vous voyez. » Puis là, il donne une liste. « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Toutes les confirmations qui étaient écrites dans le verset qu'il avait annoncé dans son patelin, où ce qui avait été élevé, se sont toutes accomplies, puis la puissance de Dieu accompagnait Jésus. Les signes qu'il en avait besoin de voir, ils se manifestaient, puis il a dit maintenant, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce qu'il y en a qui regardent Jésus, c'est bien beau, ils ont tous été guéris. Ben moi, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Pour lui, là, c'est pas important. Mais c'est une occasion de laisser tomber parce qu'il voit Jésus, mais pour eux autres, c'est pas grave. C'est pas un signe important. C'est pas tout le monde qui ont cru en Jésus qui ont été guéris. Faut pas que tu attendes de dire, s'il me guérit, là, je vais croire en lui. C'est pas ça, là, la question. La question, y as-tu prouvé qui il était? Oui, il l'a prouvé. Tout s'est manifesté comme ça avait été promis dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas juste un verset là ou une prophétie dans l'Ancien qui s'est accomplie. Des dizaines et des dizaines de prophéties se sont accomplies quand Jésus est venu. Il a déjà prouvé qui il était. Il est le Messie, le oint, celui que l'Esprit du Seigneur est sur lui, puis il a accompli le ministère comme ça avait été dit. Puis les disciples qui étaient avec ont vécu la même affaire. Parce qu'on le voit qu'ils sont revenus, ils étaient tout excités. « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » La puissance du Saint-Esprit qui était sur Jésus agissait à travers les disciples. Les disciples n'étaient pas seuls dans l'évangélisation. Ils étaient accompagnés par la puissance de Dieu. Jésus avait promis de répandre le Saint-Esprit sur ses disciples afin qu'ils soient ses témoins. Si on voit ça tout de suite après sa résurrection, comme je l'ai déjà dit, Jésus est mort, il a été 3 jours dans le sein de la terre, après ça, il est apparu pendant 40 jours à ses disciples, puis il jasait avec eux. Il lui montrait des preuves qu'il était ressuscité, puis qu'il était vivant, puis qu'il a même mangé qu'eux autres. Puis là, il a dit à ses disciples, il fallait que je meure, mais après ça, j'étais pour vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité, la puissance de Dieu. Comme Jean-Baptiste avait dit, moi, je vous baptise d'eau, mais viens après moi, celui qui est plus grand que moi, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. C'est ça qu'on chantait tantôt. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire baptiser, c'est revêtir. Comment? T'es enseveli dans le feu de Dieu. T'es revêtu, t'en as partout. T'en as dedans, t'en as dehors. Le feu de Dieu, la puissance de Dieu est sur ses disciples. Jésus les a promis. Par Jean-Baptiste, il l'a promis pendant qu'il était vivant, puis quand il est ressuscité, puis il parlait avec ses disciples, il leur a dit, dans Actes 1-8, il était ressuscité, il était là, puis il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, dans Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il est nécessaire que pour être un témoin du Seigneur, que tu aies été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Faut pas juste l'avoir été v'là 20 ans. C'est sûr que v'là 20 ans ou 30 ans, quand tu t'es converti, peut-être tu l'as reçu puis tu as vécu des affaires avec le Seigneur. Oui, mais qu'en est-il aujourd'hui de ta relation? Tu l'as-tu encore? C'est encore frais, cette relation. T'es-tu encore en communion? Vis-tu la puissance de Dieu? Il se passe-tu des signes, des prodiges, que montrer que Dieu est avec toi, puis que Dieu te parle, puis Dieu te guide, puis Dieu, il te fait prier, puis il se passe des affaires? On n'a pas tous les mêmes dons, ça, je suis d'accord. Mais on a tout le Saint-Esprit lorsqu'on se convertit. Puis s'il est éteint, qu'on sent plus, qu'on vit plus rien. Il faut renouveler notre contact avec. Il faut demander pardon au Seigneur. Il faut entretenir notre relation avec le Seigneur. C'est comme avec notre femme. Si j'y ai dit que je l'aime quand je l'ai mariée, puis je passe 20 ans de ma vie sans lui parler, puis sans lui dire encore que je l'aime, mais j'ai-tu une bonne relation avec ma femme? Pas bien, bien, si je parle pas, puis je dis pas que je l'aime, mais c'est pas fort. Hein, tu sais? Mais avec le Saint-Esprit, quand tu as vécu des affaires, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as vécu des choses en te convertissant, mais 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, tu vis-tu encore des choses avec le Saint-Esprit? Jésus leur a dit, Jésus leur avait promis de répandre le Saint-Esprit sur ses disciples afin qu'ils soient des témoins. Là, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous, puis là, vous allez être des témoins. Partez pas évangéliser sans être revêtu de cette puissance-là, sinon vous allez évangéliser dans votre chair, par vos propres capacités. Il se passera pas grand-chose. C'est plus important de prendre une demi-heure, une heure dans la prière le matin pour être dedans, puis là, à confesser tes fautes, puis de vouloir lui demander d'être rempli, puis il va le faire, il est là. Mais si tu le fais pas, tu l'auras pas. Puis te maintenir en prière dans la journée aussi. Suite à la résurrection du Seigneur, Jésus continuait d'accompagner ses disciples lors de l'évangélisation. On voit ça dans Marc 16, 19 à 20. Parce que Jésus, avant d'être ressuscité, il était à un seul endroit à la fois. Il n'était pas omniprésent, Jésus. S'il s'en allait à Jérusalem, il était à Jérusalem. Mais après qu'il soit ressuscité, il a dit des choses à ses disciples. Il a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous accompagne chaque jour. Mais dans Marc, c'est pas ça qu'il lui dit, c'est un autre passage, dans Marc 16, 19 et 20, il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, puis s'assit à la droite de Dieu. Que cherchez pas Jésus sur la croix, il est plus sur la croix. Jésus est assis dans le ciel, à la droite de Dieu. Là, ça dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Les disciples sont partis avec le feu de Dieu, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Jésus est dans le ciel, puis il travaille encore avec eux. Puis il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça veut dire, tu pars pas seul dans l'évangélisation. T'as reçu le Saint-Esprit, tu t'es converti, tu y appartiens. Sois rempli du Saint-Esprit, puis là, vas-y évangéliser. T'es pas tout seul. Il y a quelqu'un avec toi. C'est qui est avec toi? C'est le Saint-Esprit. Jésus, Dieu le Père. Jésus a annoncé d'avance que ceux qui croient, puis là, on va voir quelque chose de beau. Jésus a annoncé d'avance que ceux qui croient pourraient voir des signes de la présence de Dieu. Ça nous intéresse-tu d'en voir des signes de la présence de Dieu, des signes qui accompagnent notre ministère? Parce qu'on peut vivre une vie chrétienne. Non, pas nécessairement. Mais on peut vivre une vie chrétienne sans jamais désirer que Dieu se manifeste. On a cru, oui, je le crois qu'il m'a sauvé, je suis pardonné de mes péchés, mais on veut pas d'autre expérience que ça. On veut pas savoir si Dieu il est encore avec moi ou s'il est plus avec moi. On veut pas le savoir parce que ça fait peur. Hey, là, des signes d'un autre esprit dans l'Église. Parce qu'on veut gérer les affaires humainement parlant. On veut gérer nous-mêmes l'Église, faire ça comme qu'on veut. Mais si Saint-Esprit sera là puis commence à changer tes manières d'affaires, puis commence à se manifester par une guérison ici, puis une délivrance là, puis là, la puissance de Dieu a des signes, des prodiges, des miracles, pour qu'une personne ressuscite, il a fallu qu'elle meure. Il a fallu qu'il se passe de quoi, là? C'est un drame, il y a quelqu'un qui meurt. Puis là, il y a du monde qui prie pour qu'elle soit ressuscitée, puis là, Dieu la ressuscite. C'est extraordinaire, mais c'est dérangeant. Et les autres affaires les plus dérangeantes, c'est quand que les autres dons spirituels, comme la prophétie, qui révèlent des cœurs, révèlent des péchés. Il y a d'autres dons, comme le parler en langue, avec l'interprétation. Ça fait peur dans l'Église. Il y a beaucoup de monde qui veulent pas que le Saint-Esprit se manifeste. Ils ont peur qu'il se passerait des choses incontrôlables. Là, ils veulent vivre leur vie entière, en se disant, « Oh là, les miracles, les signes, les prodiges, j'étais dans ce temps-là. C'est plus pour aujourd'hui. » Ils veulent étouffer tout cela pour plus vivre ces choses-là puis se sentir dérangés. Parce que c'est vrai qu'il y a eu l'autre extrémité, qu'il y a eu des exagérations, des signes, des prodiges, mais c'était pas le Saint-Esprit qui était dans l'Église. C'était un esprit pour troubler l'Église, pour déranger, pour essayer d'enlever la bienséance et l'ordre, puis le monde se promenait à quatre pattes pour faire des bruits d'animaux, puis c'était un désordre complet, là, puis faire le serpent en se roulant en terre, puis c'était pas le Saint-Esprit. C'est vrai que des signes sont pas de Dieu, mais d'un autre côté, faut pas rejeter Dieu puis l'empêcher d'agir. Faut croire que les miracles, les signes, les prodiges faisaient partie de la vie de Jésus et la vie des apôtres, la vie de la première église dans les Actes, puis l'église du Seigneur qui était partout. C'était des signes, des prodiges, des miracles. Faut aspirer encore aujourd'hui, même si on sort de notre zone de confort. Puis que Jésus nous dira, « Mais va donc prier pour un tel. » Là, on y va, puis c'est dérangeant. Parce que ça l'amène des dérangements. Tu t'arrives, puis là, des doutes viennent, puis l'ennemi, il va t'en mettre des doutes pour t'empêcher de croire ce que Jésus a annoncé. Mais faut y aller évangéliser. Faut y aller répandre la parole. Il faut y aller prier quand c'est le temps. Parce que Dieu veut se manifester. Faut pas éteindre l'esprit. C'est ce qui est arrivé dans beaucoup d'églises. Puis, faut être ouvert à l'Esprit de Dieu, pas aux autres esprits. Il faut être conscient qu'il y a d'autres esprits qui agissent. Il n'y a pas juste le Saint-Esprit. Jésus en a parlé des faux prophètes qui font des miracles au point de séduire même les élus. C'est des miracles, mais le gars, quand tu l'écoutes, il prêche pas la parole de Dieu. Fait que tu le sais que c'est un faux prophète par ce qui, quand il rouvre sa bouche puis il prêche ces choses qu'il croit. Fait qu'il y a plein de religions qui se passent toutes sortes de signes, puis de prodiges et de miracles. Il y a des gens qui font des messes noires, puis ils invoquent le diable, puis il se passe des manifestations, mais ça veut pas dire que c'est le Saint-Esprit. Puis là, ça rentre dans les églises. J'ai entendu parler de pasteurs dans les pays, je sais pas si c'est en Haïti ou au Congo, je m'en rappelle plus exactement. Les pasteurs allaient voir des sorcières pour avoir des pouvoirs. Et là, c'est aïe aïe. Mais c'est pour dire, faut pas partir en peur pour être prêt à aller voir les diseuses de bonne aventure, puis les ceux qui prédisent l'avenir, puis qui tirent aux cartes pour essayer de voir des paroles inspirées. C'est pas l'Esprit de Dieu qui est là-dedans. Il faut se séparer de ce qui est impur, puis se connecter sur Dieu, puis rester en contact, marcher dans la vérité. La relation avec le Saint-Esprit va se bâtir, puis vous allez vivre les expériences, si vous voulez. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Puis là, il donne une liste. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ça, c'était annoncé avant la Pentecôte. Jésus le dit, là, ils vont parler en langue. Quelques jours plus tard, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, puis ils ont tous été mis à parler en langue. Ben ça, c'est quand Jésus apparaissait à ses disciples, c'est avant la Pentecôte. Ça dit, ils vont saisir des serpents. C'est comme Paul s'est fait mordre par un serpent, puis il a juste secoué de même, puis le serpent est tombé, puis il a même pas eu aucun mal. Ils vont boire des breuvages mortels, ça leur fera point de mal. Je dis pas d'aller faire exprès boire du poison pour voir si ça va marcher. Ça, vous êtes en train de tenter Dieu à ce moment-là. Et ils imposeront les mains aux malades, puis les malades seront guéris. Amen, on veut voir des guérisons. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, puis il s'assit à la droite de Dieu, puis il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Faut croire que Dieu va encore faire ça aujourd'hui. C'est le même Dieu. Le temps de la grâce est encore ouvert. On est encore dans les années de grâce où ce qu'on peut recevoir le pardon des péchés et la guérison, les délivrances, les transformations. Même encore aujourd'hui, la prière doit accompagner la prédication. On prêche. C'est extraordinaire. Mais on doit aussi prier pour ceux qui ont des besoins. Dans Marc 6, 12, ça dit, ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils loignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. La promesse de recevoir le Saint-Esprit est encore valable aujourd'hui. S'il y en a qui veulent le recevoir, on peut prier avec vous pour que vous puissiez le recevoir. S'il y a des gens qui veulent que le Saint-Esprit fasse de quoi dans leur vie, on peut prier n'importe quand vous avez besoin, on va être là pour vous prier comme c'est écrit qu'il faut le faire. On ne doit pas juste parler, prêcher, on doit aussi prier et s'attendre à voir la main de Dieu. Jésus nous demande de réclamer le revêtement de puissance. Jésus nous a demandé de le réclamer. Puis si vous l'avez reçu, maintenez-vous dedans. C'est pas de quoi de permanent, c'est de quoi de renouvelable. Puis il faut le réclamer jusqu'à temps qu'on l'ait reçu. Puis quand vous allez le recevoir, il va se passer des choses. Vous allez peut-être vous mettre à parler en langue. Peut-être vous mettre à prophétiser. Peut-être que là, vous allez voir quelqu'un de malade, vous allez prier, puis il va être guéri. Dieu peut faire ce qu'il veut après, par la suite. C'est lui qui guide le combat. C'est lui qui nous guide. On n'est pas seul. Jésus nous accompagne puis travaille à travers nous. Dans Luc 24, 49, ça nous dit, « Voici, j'enverrai ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Restez là, puis demandez-les. La Bible nous le dit, ils ont prié pendant 10 jours de temps. Puis là, la Pentecôte, c'était le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Dernier verset. Le salut a été annoncé par le Seigneur, confirmé par ceux qui l'ont entendu, en parlant des apôtres, puis aussi accompagné par la manifestation du Saint-Esprit. C'est pas juste parler du salut. C'est confirmé aussi par la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est présent, il veut agir. Pas juste à travers le pasteur, il veut agir à travers chacun de vous. Voulez-vous que Dieu vous utilise? Voulez-vous voir que j'allais prier pour mon oncle, il est malade, mon oncle, il est malade, puis là, tu arrives là, il parle, je suis malade. Tu lui dis, sais-tu que Jésus peut te guérir? Tu y dis, s'il dit, ouais, ben, tu veux-tu que je prie? Oui, mais là, tu pries, puis c'est pas toi qui as le don de guérison, mais c'est Dieu qui répond à ta prière, puis il guérit la personne, comme il a mentionné tantôt. Dieu peut le faire, c'est pas nous qui le fait. Fait que, faut être prêt que quand ça arrive l'occasion, on veut que Dieu se manifeste, puis on va voir sa gloire. Dans Hébreux 2, versets 3 et 4, ça nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Dieu a accompagné les apôtres par des signes, des prodiges, des miracles et aussi par les dons du Saint-Esprit. On n'a pas parlé de tous les dons du Saint-Esprit, mais ils sont là. Un jour, si Dieu le permet, on prêchera là-dessus. Le Saint-Esprit peut se manifester de diverses manières. L'important, c'est que vous l'ayez reçu et que vous en soyez revêtu. C'est baptisé. C'est une deuxième expérience. Des fois, on vit cette expérience-là, tout de suite, en se convertissant, on reçoit le Saint-Esprit, puis on est baptisé du Saint-Esprit en même temps. Puis il y a d'autres fois, c'est... Moi, c'était 8 ans plus tard, 8 ans après ma conversion. 8 ans après que j'étais en train de louer le Seigneur dans une assemblée, puis j'étais connecté sur le Seigneur, puis je le loue en français... parlant français, chanter les chants, j'étais connecté, puis je pensais au Seigneur, puis à un moment donné, ouf. C'est que là, j'avais des mots en d'autres langues qui sortaient sans que moi, mon cerveau, puisse y dire de le faire. C'est pas moi qui ai fait ça, ça s'est fait tout seul. Là, tu pries en français, là, tu pries, mais à un moment donné, tu commences à parler en d'autres langues, là, c'est l'Esprit Saint qui vient de mettre ces mots-là dans ta bouche. Là, sur le coup, wow, j'ai arrêté ça là tout de suite, là, qu'est-ce qui se passe? Là, après ça, j'ai regardé attentivement les passages qui nous disaient qu'on était pour parler en d'autres langues. Là, j'ai dit, correct, Seigneur, si tu veux, c'est toi qui décides. Là, quand ça m'est arrivé encore à d'autres reprises, quand on prie, tu pries, Seigneur, tu es connecté, tu loues le Seigneur, tu te mets à parler en d'autres langues. D'autres fois, ça peut être des dons de prophétie. Le Seigneur te parle dans ta pensée puis dit quelque chose qu'il faut que tu dises aux autres. Un exemple, entre autres, j'avais une sœur qui venait chez nous, venait nous visiter de temps en temps, puis elle se plaignait qu'elle voulait avoir un enfant, puis qu'elle pleurait devant Dieu, ça faisait longtemps qu'elle voulait avoir un enfant. Pendant qu'elle est en train d'expliquer son affaire, le Seigneur me dit clairement dans des mots, « L'année prochaine, tu vas tomber enceinte, puis tu vas avoir ta fille. » J'y ai dit, le Seigneur me dit de te dire que l'année prochaine, tu vas tomber enceinte, puis tu vas avoir ta fille. Elle dit, « Ouais, c'est correct, là, si jamais que ça arrive, je te le dirai. » L'année d'après, elle tombe enceinte, puis elle a eu sa fille. Mais ça, c'est des paroles que Dieu donne. Je te dis pas que ça arrive à toutes les réunions, mais de temps en temps, le Saint-Esprit peut faire ce qu'il veut, comme qu'il veut. J'ai donné des exemples, mais il y a eu d'autres occasions, c'était des guérisons. Des personnes comme mon fils qui avait mal dans le dos, puis il était dans le temps d'une réunion de prière, puis il se faisait longtemps qu'il se payait du mal de dos. Il a mis sur une chaise. Viens, on va te mettre là, puis on va prier pour toi. Il voulait pas en premier, il était gêné. C'est Jean-Gabriel. Là, finalement, il a accepté, il s'est mis là, on a prié pour lui. Plus de mal de dos, ça avait disparu instantanément. Puis il y en a eu d'autres, des guérisons de même que Dieu a faites. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand qu'il veut. Sauf que, est-ce que nous, on est coopératifs? Est-ce qu'on travaille avec Dieu? Est-ce qu'on veut que Dieu le fasse? Est-ce qu'on a peur que Dieu le fasse? Est-ce qu'on voudra pas prier? Peut-être qu'on est trop gêné, puis on dit, oh, moi, qui me demande pas de prier pour l'autre, ou de proclamer de notre bouche, tu vas être guéri s'ils sont pris le Seigneur, d'un coup que ça marche pas, puis on pense tout de suite des pensées négatives, puis on s'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Dieu nous dit qu'il va le faire. Si, je te dis pas que s'il se passera rien, mais s'il n'est pas arrivé instantanément la guérison, doutez pas. Il a jamais dit qu'il fera du premier coup que j'allais prier. Mais vous commencez à prier pour la personne, puis continuez à garder la foi. Continuez à confesser, on le demande, puis on va prier tant qu'on ne l'a pas vu. Il y a des guérisons, des fois, j'ai vu qu'on a prié 3 fois en ligne pour avoir la guérison, puis il l'a donné la 3e fois. C'est pas nous qui décidons, mais Dieu le fait conformément à sa parole, puis il est capable de confirmer par les signes, les prodiges, les miracles, comme que ça a été fait dans ce temps-là. Amen.
Amen.
On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour les explications que tu nous révèles pour qu'on croit que tu nous accompagnes pendant l'évangélisation. Seigneur, enlève tout doute, donne-nous de chasser tout doute, qu'on laisse pas l'ennemi mettre ses mauvaises pensées. On veut croire à ta parole, on veut croire au baptême du Saint-Esprit, on veut croire aux dons spirituels, aux signes, aux prodiges et aux miracles qui doivent accompagner. Seigneur, prends nos vies, guide-nous dans le combat, et donne-nous de voir ta main à l'œuvre. On remet nos ventres entre tes mains, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.